France Inter, il est 14h05, on retrouve la tête au carré en direct du Salon du Livre. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Dominique Delarroix et à tout à l'heure pour les prochaines infos. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bonjour au public qui nous a rejoint ici au Salon du Livre sur le stand de France Inter, la tête au carré donc aujourd'hui qui va explorer le livre de science sous toutes ses facettes pour vous en raconter les succès, les mots, les images et les formes. Il sera question du best-seller scientifique absolu de ces dernières années, d'un ouvrage qui nous rappelle que notre langue doit beaucoup à l'arabe, d'une bande dessinée pour aller voyager sur Mars et puis d'un livre réunissant blogueurs, dessinateurs et youtubeurs scientifique. Nous vous attendons donc jusqu'à 15h ici, Porte de Versailles, mais également avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot qui est l'attaque pour discuter avec nos invités. Stéphanie Texier réalise l'émission qui a été préparée par Chantal Le Montagnier avec Thomas Lehété.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et donc dans notre club cet après-midi, je salue l'éditrice Martina Warendorf, le lexicologue Jean Pruvot, la blogueuse Florence Porcel et le généticien et vice-président du Café des Sciences Pierre Kerner. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Et bienvenue Martina Warendorf, c'est vous qui avez repéré pour la France et les éditions Actes Sud cette jeune étudiante en médecine Julia Enders, qui a donc signé Le charme discret de l'intestin, un livre qui 2 ans après sa sortie comptabilise des chiffres de vente absolument hallucinants. Il reste toujours classé dans les meilleures ventes. Ce niveau de succès, c'est absolument inédit quasiment dans le monde de l'édition.
Ah oui, c'est très très rare. Et nous, chez Actes Sud, on était les premiers surpris. Et moi-même, je pense que ça va m'arriver une fois dans ma vie.
Ouais, vous fêtez la 100e semaine donc de présence de Julia Enders dans les classements. Vous allez nous raconter justement les coulisses de ce livre. Jean Pruvot, c'est le Maroc qui est l'invité d'honneur du livre Paris pendant ces 4 jours. Et vous publiez justement chez Jean-Claude Lattès « Nos ancêtres, les Arabes, ce que notre langue leur doit ». Il est bon de rappeler que beaucoup des mots que nous utilisons puisent leurs racines justement dans l'arabe.
Ben oui, c'est la 3e langue d'emprunt après l'anglais et l'italien, ce qu'on ne sait pas. Et chaque matin, quand on prend une tasse de café, 0 sucre et un jus d'orange, tasse, café, sucre, 0, orange, ce sont des mots arabes. Et quand mon épouse enfile une jupe, c'est arabe, de coton, c'est arabe, un gilet, c'est arabe, de satin, c'est arabe,
vous nous faites toute la garde-robe,
voilà, très bien. Donc, et dans les sciences, il y a aussi
oui, on trouve beaucoup de mots de science, on va en parler avec vous tout à l'heure. Florence Porcel, les sciences de l'univers vous passionnent, et en particulier celles qui concernent la planète Mars. Et pour poser déjà un premier pied, on va dire, sur la planète rouge, eh bien, vous publiez aux éditions Delcourt Mars Horizon. C'est une bande dessinée avec Erwan Surcouf, et c'est donc le récit d'une citoyenne du système solaire. C'est comme ça que vous percevez, au fond. Hein.
Oui, absolument. Ouais. Citoyenne de l'univers, même, voyons grand. Et oui, je suis allée par procuration sur Mars via la BD.
Et on fera donc le voyage avec vous dans un instant. Et puis Pierre Kerner, en dehors de votre travail de généticien, vous êtes donc vice-président du Café des Sciences et vous avez contribué à La Science à contre-pied. Ça, c'est un livre qui sort chez Belin et qui réunit 40 fans de science, ce qui est très réjouissant hein, puisque c'est de voir le nombre de blogueurs, dessinateurs, youtubeurs qui aiment profondément la science. Hein.
Qui aiment et qui la partagent justement sur ce livre dans lequel on a la science improbable qui va vous surprendre puisqu'elle est à contre-pied. Et qui aussi évoque le monde de la vulgarisation scientifique.
Voilà, et à contre-pied, c'est bien quand on est comme vous un spécialiste de la bipédie. On en parlera évidemment dans un instant. Allez, on va se retrouver justement pour évoquer ces différents sujets. Et puis vous répondrez également aux questions des auditeurs qui nous rejoignent et du public ici présent. On se retrouve donc au Salon du Livre pour ce club des têtes au carré.
Divided we fall. All from
Les Fields and the Expression avec Make the World.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Et notre club au Salon du Livre de Paris pour parler donc entre autres du phénomène Julia Enders, de nos ancêtres les Arabes, d'une bande dessinée martienne et d'un livre de foot science. Et j'attends bien sûr vos messages et vos questions. Franceinter.fr, le mot-clé l'attaque, ainsi que celle de nos amis du public qui nous ont rejoints donc sur le stand de France Inter. Martina Varendoff, on va commencer avec vous pour évoquer ce phénomène de l'édition, le charme discret de l'intestin, publié il y a exactement 2 ans. C'était le 1er avril. Hein.
Oui, c'était pas un poisson d'avril, mais ouais. C'était le 1er avril.
2 années donc d'une aventure absolument incroyable. Vous êtes donc éditrice dans les domaines de la littérature allemande et des documents société et santé chez Actes Sud. Et donc c'est vous, pour Actes Sud, qui avez fait traduire donc ce manuscrit de Julia Enders, ouvrage qui est tout simplement, on l'a dit tout à l'heure, le plus gros succès éditorial de ces dernières années dans le domaine de la santé. Et 2 ans plus tard, on regarde toujours les classements, il est présent. En France, comme ailleurs d'ailleurs, hein, en Allemagne aussi.
Oui, toujours présent. Et en même temps, nous avons vendu donc 1 million d'exemplaires, ce qui est vraiment exceptionnel.
En France ?
En France.
Ouais. Vous avez fait le double en Allemagne ?
Oui.
Et combien de traductions ?
39 traductions, ouais, dans le monde.
Vous avez le chiffre global, voilà, vous avez même les applaudissements du public qui ont lu visiblement. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui connaissaient bien cet ouvrage. Vous avez le chiffre global des ventes pour l'instant ou pas ?
Non. Malheureusement, j'ai pas de chiffre global. En fait, ce n'est pas communiqué pour le moment.
Ouais. Donc on les aura un petit peu plus tard, hein, évidemment. Alors, est-ce que ce succès qu'on a connu en France, qu'on connaît toujours en France, qui vient d'Allemagne, est le même dans tous les pays où ce livre est traduit ou pas ?
Non, ce n'est pas dans tous les pays pareil. Et j'ai donc appris, j'ai pas le chiffre exact, mais l'éditeur m'a dit que la France est loin devant les autres pays,
ouais.
Sauf l'Allemagne, bien sûr.
Ouais. Et comment vous expliquez alors ce phénomène ? Pourquoi le lectorat français a été particulièrement intéressé par l'histoire des intestins racontée par Julia Enders ?
Il y a toujours une part de mystère. Mais je pense que y a la forme et le contenu, les deux ont dû plaire aux gens. Ils se sont parlé mutuellement. J'ai vu les gens lire le livre dans le train. Ils se sont parlé. Les médecins,
oui,
ont parlé du livre pour aider les gens qui ont des problèmes de digestion.
Mmh.
Et il y a le bouche à oreille. Donc, je suis ici au salon. Je remercie les lecteurs parce que c'est vrai que c'est le succès des lecteurs. C'est pas un succès fabriqué.
Ouais.
C'est venu lentement, mais après,
ça a pris beaucoup d'ampleur.
C'est vraiment les lecteurs qui ont fait le succès de ce livre.
Ouais. Est-ce qu'il est traduit en anglais ? Est-ce qu'il est sorti en Angleterre, aux États-Unis en particulier ou pas ?
Absolument.
Et il rencontre le même succès là-bas ?
Aussi, mais pas 1 million d'exemplaires.
Ouais. Donc c'est un peu plus difficile, c'est un autre marché.
Oui, c'est un autre marché. Et je dois rendre hommage ici à la traductrice qui s'appelle Isabelle Libert, parce que je pense que son travail de talent a vraiment participé à ce succès.
Ouais. Alors racontez-nous l'histoire justement de Julia Enders, savoir comment elle a été repérée au tout départ, parce qu'évidemment elle n'avait jamais écrit de livre, elle a 27 ans je crois aujourd'hui Julia, c'est
oui.
Ça et le livre donc a été imaginé il y a maintenant pratiquement 5 ans, comment l'éditrice allemande a repéré d'abord cette jeune fille ?
Ah, c'est une histoire incroyable parce que Julia Enders à l'époque elle avait 22 ans et elle a participé à quelque chose qui s'appelle The Science Slam. C'est dans un théâtre, il y a les thésards qui ont 10 minutes chrono pour présenter leur champ de recherche.
Ouais.
Et celui qui convainc le public avec l'originalité, avec des moyens, des PowerPoint et un langage clair, c'est lui qui va gagner le prix. Et Julia Enders, elle a gagné ce prix dans 3 villes. Et à Berlin, le tout a été transformé en une vidéo. Sa prestation est passé sur YouTube. Et c'est grâce à cette vidéo, l'éditeur a contacté Julia pour la convaincre de faire ce livre. Et déjà dans cette présentation, elle avait 22 ans, sa sœur un peu plus, sa sœur a déjà dessiné ce qu'on retrouve après dans le livre.
Ouais. Alors justement, on va écouter un document qui est le tout premier justement enregistré de la voix de Julia Ender. C'était précisément donc à Berlin et c'était le 5 mars 2012. Alors on ne l'a pas traduit, on l'a fait volontairement parce que l'ambiance du public et la voix de Julia Ender suffisent.
Frohlockende Blicke durch die ganze Runde. Und das Ganze dauert leider nur so etwa 30 Sekunden an bei mir, weil spätestens dann die Frage kommt, und in welche Richtung willst du später mal gehen? Und dann muss ich so aus treuer Liebe blank ziehen und einfach sagen, seit dem ersten Semester bin ich total auf dem Darmrohr hängen geblieben. Es fing alles mal mit dem Anus an und hat sich zu einem absoluten Faszinationsgebiet ausgeweitet.
Voilà, Martina Varendorf, qu'est-ce qu'elle nous raconte d'absolutely fascinating?
Elle raconte que dans les réunions famille, c'est toujours très bien quand on peut dire à ses tantes « Oui, moi je fais de la médecine. » Mais après, quand elle va dire sa spécialité,
ouais.
Alors elle va dire « Moi, c'est vraiment l'intestin qui m'intéresse le plus au monde.
Mm-hmm. »
Et là...
Et là, elle va dans les détails, justement.
Voilà, la famille est moins enthousiaste.
Oui, c'est ce qu'elle a fait donc, dans cet ouvrage. Donc là, pendant qu'elle parlait, l'éditrice allemande était dans la salle ou elle l'a repérée après en vidéo ?
Non, par la vidéo.
Ouais.
Il y avait des centaines de milliers de clics très rapidement sur cette vidéo.
Ouais.
Et après, elle est même passée dans la presse sur les sites de Die Zeit. Et c'est comme ça, l'agent Petra Eggers...
Ouais.
La connue.
Ouais. Pierre Kerner, vous qui avez l'habitude justement des jeunes blogueurs, vidéastes et fans de science, est-ce que vous aviez repéré Julia Ender à l'époque ou pas ?
Non, mais parce que je parle pas allemand, donc ça aide pas justement à remarquer, même si la voix et l'intonation de la voix sont remarquables pour transmettre l'enthousiasme.
Ouais. Et on comprend presque à ce qu'elle nous dit, voilà. Justement quand on connaît un minimum du sujet. Florence, est-ce que vous en aviez entendu parler de Julia Ender à l'époque ?
Non, pas du tout, non plus.
Ouais, vous l'aviez suivi donc après, une fois que le livre était sorti en France. Alors après, le travail de traduction là pour les éditions Actes Sud, comment ça se passe? Parce que, est-ce que vous avez signé au moment où le livre avait déjà beaucoup de succès en Allemagne, ou est-ce que vous avez eu le flair justement de dénicher ce manuscrit avant tout le monde?
Le livre était déjà bien repéré en Allemagne, et mais bon, ça ne veut rien dire pour les autres pays, parce que bon, on prend toujours un grand risque, parce que justement l'humour, ça passe très très mal la frontière.
Ouais. Et la frontière de la traduction en particulier.
Donc, voilà, on a pris le risque parce qu'on a vraiment beaucoup aimé le livre.
Ouais.
Et on trouvait que c'était un livre important. Parce qu'en fait, le livre, il vous fait écouter votre ventre. Et puis, c'est quelque chose qui...
Oui, enfin, c'est pas très vendeur au départ quand même. Hein, de se dire qu'on va faire un livre sur l'intestin et en raconter les moindres détails. Vous êtes parti, franchement, en vous disant que ça pourrait avoir du succès en France ou... Vous avez fait une sortie, au fond, assez normale par rapport aux autres livres que vous publiez.
Il y avait le temps. Le temps, ça change tout. Donc, on pensait que ça va un peu se vendre, mais on n'a jamais cru que ça va faire un succès pareil.
Ouais. Alors, Julia Ender's était étudiante en même temps qu'elle écrivait ce livre, évidemment, donc étudiante en médecine. Et donc, le livre est arrivé en France et vous l'avez publié à combien d'exemplaires au moment de la sortie, à peu près ?
Entre 5 000 et 8 000 exemplaires.
Ouais, donc quelque chose de tout à fait normal.
Tout à fait normal.
Ouais. Et ensuite, donc, le phénomène s'est amplifié. Et là, le rouleau compresseur est arrivé,
oui.
Défiant tous les pronostics. Hein.
Il y a aussi les blogueurs qui ont parlé de ces livres. Et ce qui nous a vraiment surpris, c'est ce public très jeune qui s'est emparé de ce livre.
Ouais. Quel est le secret, au fond, maintenant, quand vous arrivez à analyser un petit peu ce qui s'est passé 2 ans plus tard, on le disait avec ce classement, hein, c'est Livre Hebdo hein, qui titrait, là, il y a quelques jours à peine, le phénomène miraculeux de Julia Ender's, 100 semaines consécutives dans les classements de vente. Qu'est-ce qui fait, au fond, l'alchimie de... Est-ce que c'est un mot arabe, d'ailleurs, Sergent Prévost, l'alchimie ?
Oui, c'est un mot arabe.
C'est ça, en le disant, je lui dis, tiens, ça peut être...
Oui, tout à fait. Ça comme Toubib, d'ailleurs, ouais. Nuque et d'autres mots,
exactement.
Effectivement, de la médecine. Hein.
Donc, ce livre de cette jeune toubib, Martina, effectivement. Comment vous en analysez un petit peu aujourd'hui les ressorts pour comprendre ce qui a marché? C'est la personnalité de Julia Ender, c'est le sujet qui, on peut quand même dire en ce moment, est un sujet en plein essor aussi dans le domaine de la recherche. Tout ce qui concerne le microbiote intestinal est très étudié.
C'est le sujet, c'est peut-être aussi un certain malaise. Justement, notre rapport à la digestion, notre rapport à notre alimentation, à notre corps, c'est quand même un sujet de société très, très important. Mais en même temps, je crois que c'est vraiment... Parce que Julia, elle est dans le partage. C'est un livre qui fait du bien. C'est comme si on avait rencontré quelqu'un de savant qui a fait beaucoup de recherches et qui...
Qui le met à la portée de tout le monde.
Voilà, qui est capable de vous en parler directement et naturellement.
Ouais. Avec aussi son aspect très décomplexé quand même. Hein.
Très décomplexé, beaucoup d'humour. Parce que c'est vrai que dans ce domaine, on a plein d'expressions qui sont liées dans le langage. Et puis la traductrice, elle a fait tout ce travail d'adapter ces expressions par rapport à la langue française.
On va écouter Julia Enders. Là, il y a une traduction, évidemment, sur l'intestin et évidemment tirée de son livre « Le charme discret de l'intestin ».
La consistance idéale ressemble un peu à du dentifrice. Dans mon livre, on retrouve un petit aperçu des consistances. On découvre quelles sont les meilleures, on voit quelques codes de couleurs. Donc, une des choses les plus importantes est de s'y intéresser. Regardez ça de plus près et vérifier que tout est en ordre. Pour les êtres humains, la position naturelle aux toilettes est de se tenir accroupi. On peut y parvenir tout en étant sur le pot. Il suffit de prendre un petit escabeau que vous installez devant le WC et vous placez vos pieds dessus. Ce sera parfait et c'est plus facile.
Voilà Martina Varendorf. Et c'est en nous conseillant justement la meilleure position pour aller aux toilettes que Julia Enders a vendu des millions de livres. Il faut quand même le dire. C'est ça aussi qui a été retenu, hein, évidemment, par la presse. Hein.
Ah,
je ne sais pas si...
Il y a un problème de...
Ça y est, c'est rétabli.
Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit... c'est ça qui a fait le succès, parce qu'il y a des choses très concrètes. Ouais. Mais je pense que c'est un ensemble. Ouais. Je pense que ces choses-là sont drôles et intéressantes.
Pierre Carner, est-ce que justement ce microbiote intestinal aujourd'hui, très en vue de la part des chercheurs, ça contribue aussi, selon vous, au succès du livre ?
Ben, à la fois le microbiote, mais moi ce que j'ai remarqué surtout, c'est cette discussion qu'il y avait entre le public et les thésards. Et on peut savoir quand même qu'il y a des événements comme ma thèse en 180 secondes, FameLab, etc., qui mettent en scène les chercheurs en train de se faire. Je pense que ça, c'est un engouement nouveau du public qui peut peut-être expliquer en partie le succès de ce livre-là. Ouais.
Florence, une nouvelle façon de faire de la science, hein, aussi on le voit,
c'est
avec ces nouveaux outils. Hein,
de toute façon, oui, tous les outils sont bons et tous les supports sont bons pour la partager.
Oui. Jean Prouveau,
Moi je commence par croire que le café des sciences, je crois qu'on n'entend pas, voilà. Je commence par dire que le café des sciences est un mot arabe, café est un mot arabe. Donc d'emblée, quand il s'agit des sciences, eh bien, on a toute une série de mots, algèbre, algorithme et bien d'autres, qui font partie des sciences. Hein. Et donc quand on est au niveau de l'intestin, un massage, c'est pas mal.
Oui.
Et en même temps, arabe. Élixir, ça peut faire du bien. Moi, ce sont des mots arabes.
Exactement, ce sont quelques-uns des mots qu'on retrouve dans votre ouvrage. Martina Varendorf, pour terminer, que fait Julia Enders aujourd'hui ? Elle est millionnaire, hein, déjà, avec ce premier livre. Elle a envie d'écrire à nouveau ou elle se consacre à ses études et à la recherche ?
Elle se consacre exclusivement à ses recherches et à sa thèse, qu'elle n'a pas encore finie. Mmh. Et elle ne nous a pas encore promis un autre livre.
Et ça, vous êtes désespérée en tant qu'éditeur ou pas ? Vous êtes très patiente ?
Pour le moment, ça marche toujours. Hein.
Ouais, ouais. Donc il y aura la sortie en poche aussi qui va arriver.
Certainement.
Et une exposition à la Cité des Sciences qui pourrait être tirée directement de l'ouvrage de Julia Enders.
Oui, c'est maintenant, hein, voilà, pour 2018 avec la Cité des Sciences.
Et des films qui sont également en cours de signature, je crois. Hein.
Oui, c'est ça.
Et Michel nous dit, raison possible du succès de Julia Enders en France, cela tient peut-être à la partie rabelaisienne de notre culture, Jean Prouveau.
Oui,
c'est pas faux, ça.
Hein, oui, c'est très important.
Ouais. Martina Varendorf, Le charme discret de l'intestin, il est toujours disponible, évidemment, puisqu'il est encore dans les meilleures ventes de livres après 100 semaines consécutives. Et on voulait donc en discuter avec vous cet après-midi. Vous restez en notre compagnie. On parle de mots arabes dans un instant.
Remonte la pente. Le quartier de Wilsten dort déjà depuis longtemps. Ça fait des heures qu'il essaie de rentrer. dans le dos, le vieux pense à son frigo. La machine lui parle souvent, il pense que c'est un être vivant. Au croisement, un véhicule s'arrête à son niveau. Une âme charitable, un voisin propose à l'ancien de le déposer.
Julien Gasque sur France Inter, l'été anglais, et notre club cet après-midi donc qui fait escale au Salon du Livre à Paris avec Jean Pruvot qui fait partie de la bande cet après-midi. Vous êtes professeur émérite de lexicologie et d'histoire de la langue française à l'université de Cergy-Pontoise. Vous êtes également directeur éditorial des éditions Honoré Champion et donc vous êtes là pour présenter nos ancêtres les Arabes, ce que notre langue leur doit. C'est chez Jean-Claude Lattès. Vous serez en signature d'ailleurs demain samedi.
Oui.
À partir de 11h30. Et donc, ça tombe bien, puisque le Maroc, on le disait, est l'invité d'honneur du livre Paris. Jean Pruvot, il y a au moins deux lectures possibles, moi, je trouve, à votre ouvrage. D'abord, ce livre purement lexicologique, et puis une lecture un peu plus politique dans le contexte actuel, où vous rappelez ce que notre langue doit à l'arabe.
Oui, ce que notre langue doit à l'arabe est très important, parce qu'en fait, il faut savoir que la première langue d'emprunt étant l'anglais, la deuxième étant l'italien, la troisième l'arabe. Mais l'anglais, il y a beaucoup de mots qui sont français, qu'on a donné 60% des mots, donc ils nous reviennent. Et dans le fond, la langue arabe serait la deuxième langue d'emprunt. Et il est à peu près impossible de lire 10 lignes d'un texte sans rencontrer un mot arabe. Ouais. Alors on n'en a pas conscience, mais j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, mais presque à chaque domaine, il y a 500 mots à peu près qui sont décrits, à chaque domaine, on se retrouve avec des mots à la fois courants, et en même temps, savant. Alors, massage et nuque, hein, on venait de le voir. Café, mais tous les matins, ou chaque instant, on fait arrobase, hein, ce fameux signe. Bon, c'est un mot arabe.
Ah bon?
Tiens. Ah oui, ça veut dire un quart, et ça a donné lieu à un petit signe particulier qui a été utilisé en Espagne. Et comme ce petit signe était disponible, on l'a récupéré ensuite. Donc on parle arabe presque tous les 10 minutes, ouais. Dès qu'on... Alors, c'est pas une volonté politique, c'est juste une reconnaissance que c'est une langue très importante. Et si j'ai fait ce livre, c'est parce que auprès de mes étudiants, dans l'histoire de la langue, quand je racontais les Gaulois, puis ensuite les Romains, puis ensuite le Germanique, et que tout ça crée la langue française, et qu'après qu'on évoque les emprunts, j'avais un moment d'intense attention quand les étudiants, les élèves, découvraient, pour ceux qui n'étaient pas d'origine arabe, qu'ils parlaient très souvent arabe, et pour les autres, une sorte de reconnaissance que leur civilisation, leur langue existe.
Ouais. Et puis c'est aussi l'enfant de Saint-Denis quand même là, qui écrit cet ouvrage.
Oh, je suis né...
Et vous nous rappelez quand même que Saint-Denis, c'est un lieu très particulier, à la fois d'histoire française et de langue arabe aussi, hein.
Il y a des moments un petit peu extraordinaires. Je suis né à Saint-Denis. J'étais baptisé à Saint-Denis. Et ensuite, il se trouve qu'avec mes grands-parents, on entendait sans cesse des mots comme, je sais pas, Gourbi, Fatma, des mots qui correspondaient, si vous voulez, à l'époque, hein, et qui étaient la Nouba, etc. Et puis, il y a un an ou deux ans, après avoir fait des études pour être professeur d'université, je suis invité par Richard Santaki à une grande dictée. Je suis même le parrain, puisque je suis doc dico, enfin, comme vous le savez, pour expliquer les mots du rap. Je suis invité, et là, sur le parvis donc de Notre-Dame, un symbole, la mairie de Saint-Denis, un autre symbole, la place du marché, tout ça est réuni au même endroit, 982 personnes pour 90% originaires du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, d'Afrique, qui concourent pour une dictée en langue française, ouais, qui était extraite de 93 de Victor Hugo, le 9-3. Bon, il y avait évidemment un petit jeu de mots là-dessus. Et mine de rien, bah, Victor Hugo, lui aussi, avait des mots arabes. Et voir ces jeunes, ces moins jeunes, mon épouse qui est ici, était à côté d'une dame assez âgée, avec une djellaba, avec les enfants qui étaient à surveiller, les voir concourir pour la langue française, Victor Hugo,
et près des rois de France.
Et près des rois de France, au pied de la cathédrale, au pied de la mairie, quel symbole républicain manifeste, ouais, et quelle reconnaissance que de savoir que leur langue, eh bien, elle est présente depuis 9 siècles, depuis le 9e siècle, jusqu'à, ouais, aujourd'hui.
Alors vous, qui êtes un amoureux des dictionnaires, parce que l'homme que vous avez en face de vous collectionne les dictionnaires, et vous en avez plus de 10 000, hein,
mais j'en ai plus de 10 000, c'est un calvaire pour la maison, oui, mais en même temps, bon, c'est une joie profonde. Et alors maintenant, il y a des dictionnaires, même français-arabe, donc ça complique encore la situation, mais c'est un vrai, ouais, bonheur.
Vous arrivez à rajouter des pièces à votre appartement, oui, vous achetez les étages du dessus,
oui,
du dessous.
Oui, c'est à peu près ça. Pour mettre votre dictionnaire, la cave qui est complètement occupée, et, ouais, mon épouse me dit, quand il entre en train, il doit en sortir un, seulement que j'ai des doubles, alors que je fais sortir les doubles.
C'est ça, c'est ça. Et donc, évidemment, à l'occasion de vos très nombreuses pérégrinations dans ces dictionnaires, vous avez sans arrêt croisé des mots arabes, au point d'en faire donc cet ouvrage aujourd'hui pour nous montrer à quel point, et vous le disiez par ces nombreux exemples, nous sommes baignés dans la culture arabe.
Mais c'est-à-dire, dès qu'on étudie l'histoire de la langue française, puisque ma spécialité c'était l'histoire de la langue française, je ne le savais pas quand j'étais à Saint-Denis, je ne le savais pas tout cela. Et petit à petit, on découvre qu'il y a eu 6 voies en fait de communication. La première, ça a été les croisades, ça a rapporté très peu de mots. La deuxième, ça a été bon, la conquête religieuse de l'Espagne, etc. La troisième, c'est les voies commerciales. Et tous les matins, quand on va au marché et qu'on prend des abricots, des aubergines, des artichauts, nous parlons arabe, des asperges, ouais, nous parlons arabe. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a ému et qui m'a étonné. Puis après, il y a une quatrième voie d'emprunt qui a été la colonisation. Et là, c'est le bled, le blédard, toute une série d'autres mots qu'on utilise. Beaucoup de jeunes utilisent bled sans savoir que c'est un mot arabe et qui a pris d'ailleurs du renouveau avec le rap. Et puis il y a eu la décolonisation, c'est le patawet, et c'est mon grand-père goûtant le couscous et mettant de l'harissa, pensant que c'est de la sauce tomate, et c'est la première fois que je l'ai vu avec les joues très rouges. Et il y a la dernière voix qui est aussi très importante, ma grand-mère disait kif kif bourricot,
ah,
et
oui,
les jeunes disent kiffé, c'est pas la même racine, kif kif c'est... Pareil, c'est de l'arabe littéral qui a donné lieu à une chanson et donc à kif kif bourricot, une expression qu'on a tous encore en tête. Et les jeunes, kif or kif, le mot existe depuis le 18e dans nos dictionnaires.
Ouais.
Et donc c'était une certaine béatitude, certes liée à des choses peu recommandables, mais aujourd'hui, kiffer, Eric Orsenna dit, il faut l'entrer dans le dictionnaire parce que tout le monde sait ce que ça veut dire.
C'est vrai.
Je kiffe grave, j'évite, ouais, ce vocabulaire. Mais bon, c'est amusant quand
on
même.
On va écouter un petit florilège justement de quelques mots français justement qui puisent leur racine dans l'arabe.
Premier mot, معنا alcool, alcool, اللي هي الكحول, aubergine, aubergine, اللي هي باذنجان, guitare, guitare, طبعا عارفينو guitare, sirop, sirop, اللي هو شراب, فبنعني به اللي هو شراب الدواء يعني, café, café, اللي هي القهوة, tarif, tarif, اللي هي التعريفة, épinard.
Oui.
Voilà, épinards.
J'avais oublié. Ouais,
on peut faire la liste des courses, hein,
oui,
grâce à vous. Et pas seulement. Depuis quand, au fond, justement, on a emprunté à l'arabe?
Alors, depuis le 9e siècle, en gros, à partir du moment où il y a la conquête espagnole et où les Arabes se sont installés à Cordoue, avec un empire très tolérant, hein, puisqu'ils supportaient tout à fait, ouais, l'église chrétienne, etc. Et à ce moment-là, à Cordoue, il y a eu la plus grande bibliothèque d'Europe, avec un nombre de volumes qui était le plus important de l'époque. Et de l'Europe entière, on venait pour découvrir l'algèbre, les algorithmes, qui s'écrit ITHME parce que c'est pas le rythme, c'est l'inventeur de l'algèbre qui avait un nom compliqué et qui a donné déformé algorithme. Et donc c'est tous ces mots-là qui sont passés de science, zénith, certains avec des fautes d'orthographe, ce qui est, ouais, merveilleux. Par exemple, zénith, c'était au départ samt ar ras, le chemin vers le ciel. Et le S-A-M-T a été transformé par les calligraphes. Au lieu de mettre un M, ils ont mis un N et un I. Et c'est devenu sanit et zénith. Ouais. Donc il y a beaucoup de mots. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, il y a quelques déformations. mais on a vu qu'il n'y en avait pas tant que ça, on les reconnaît. Et puis en même temps, parfois, ça a été aussi en passant par l'Espagne, par l'Italie, par Venise, la Sardaigne, ouais, etc.
Donc il y a aussi l'âge d'or des sciences arabes, hein, on est à peu près à cette époque-là, 8e,
oui, c'est ça,
9e siècle.
Absolument, tout le Moyen-Âge.
Donc ça irradie évidemment sur l'ensemble de l'Europe, et il y a énormément de mots qui existent toujours, et qui voyagent, au fond c'est ça aussi une langue, hein, c'est une langue qui emprunte, qui se transforme au gré de ses rencontres et de ses métissages.
Eh bien oui, c'est-à-dire que la langue arabe, d'une certaine façon, est passée de manière internationale, ouais. La langue arabe s'est exporté dans énormément de pays. Alors il ne s'agit pas de vouloir à tout prix apprendre la langue arabe et développer, mais il s'agit, si vous voulez, de reconnaître qu'il y a une civilisation qui a été très importante, qui reste très importante à travers le rap aussi.
Alors monsieur, bonjour, une question dans le public, bienvenue.
Oui, bonjour. Je voulais savoir ce que vous entendez par langue arabe.
Alors, vous faites très bien de poser la question, parce que bon nombre de mots, comme, je ne sais pas, guitare, par exemple, vient plutôt du grec, la cithare, passe en arabe, puis passe en espagnol, puis passe en France, où Louis XIV développe la guitare. Et du coup, l'arabe étant une grande langue de civilisation au Moyen-Âge, beaucoup de mots sont venus de l'Iran, de la Perse. Sous l'Antiquité, on disait qu'il fallait connaître trois langues. La première, c'était évidemment le grec. La seconde, la deuxième, c'était le latin. Et la troisième, c'était la langue arabe. On était savants, érudits à ce prix-là.
Madame, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, madame.
Et Hashashin, ça devient bien assassin?
Oui, tout à fait, lié au hashish.
Hein, et hashish aussi.
Voilà. D'accord. Ouais. Ben, merci de cette... précision culturelle, c'est ouais. Tout à fait ça.
Bakchish, flouze, maboule, par exemple.
Oui, maboule,
faire la nouba. Hein,
oui.
Là aussi, on emprunte à l'arabe, évidemment. Et puis aujourd'hui, avec le rap, ça vous explorez cette autre voie d'emprunt très importante.
Oui, c'est une voie d'emprunt très importante parce que dans le rap, les rappeurs utilisent, contrairement à ce qu'on pense, peu de mots anglais. Ils veulent éviter, ils n'ont pas chanté en anglais alors que le rap vient de la Californie. Ils ont chanté en français. Et du coup, ils ont utilisé aussi quelques mots arabes. Alors parmi les mots arabes, il y a « wesh hein, » qui est très répandu.
Wesh, bon, wesh.
Bien sûr.
Wesh, et puis wesh.
On a, oui, wesh, 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 bien sûr, qui voulait dire « wesh rak », salut, d'une certaine façon. Et puis on en a d'autres qui sont délicieux, qui sont pas forcément très connus. Bon, qui fait, bien sûr. Mais la Zouz, par exemple, rappelez-vous donc de cette vidéo où on voit Jean Rochefort qui évoque Madame Bovary avec le langage bolos, donc langage des jeunes, et qui évoque la Zouz campagnarde, c'est ouais. Un délice avec l'accent aristocrate de Jean Rochefort. Donc on a toute une série de mots comme ça qui sont absolument mis en place. Ça passe évidemment par Bélec, Chouf, etc. Alors je les évoque aussi, ça m'empêche pas d'évoquer les mots gaulois, parce que les mots gaulois, je ne les renie pas. Oui. Simplement, ils sont une centaine. Quand les mots arabes sont plus de 500 et très ancrés dans la langue française.
Et vous ouvrez d'ailleurs le livre avec nos ancêtres, les Gaulois, Jean Pruvot, nos ancêtres, les Arabes, ce que notre langue leur doit, c'est chez Jean-Claude Lattès qui est présent ici au Livre Paris. Vous serez donc en signature demain matin à 11h30.
Voilà, à partir de 11h30.
Allez, on part sur la planète Mars dans un instant.
Bye.
Call Me et la voix de Blondie à l'instant.
La tête au carré. Le club.
Et dans ce club, il y a quelqu'un que nous connaissons bien. Dans l'émission, c'est Florence Porcel.
Bonjour Mathieu.
Et tous les chemins vous emmènent sur la planète Mars.
Toujours. Hein,
vous utilisez tous les moyens d'arriver sur votre planète chérie. Avec donc maintenant cette bande dessinée. Vous êtes spécialiste des sciences de l'univers et de la planète Mars. Vous êtes blogueuse et votre actualité, c'est donc cette BD Mars Horizon avec Erwan Surcouf. C'est lui qui a fait les dessins.
Oui.
Et BD qui paraît aux éditions Delcourt. Vous serez en signature quand d'ailleurs, Florence?
Samedi et dimanche de 13h à 15h sur le stand Delcourt.
Voilà, et on ne peut pas vous louper sur le stand, parce que c'est une énorme affiche avec la couverture justement de votre livre.
Exact.
Alors c'est quoi l'idée? C'est d'imaginer la première installation humaine sur Mars
en
2080, c'est ça?
En 2080, oui, c'est la première semaine de la première mission habitée sur Mars. Donc avec 6 personnes, 4 au sol et 2 en orbite.
Et vous êtes la première femme de l'histoire à aller sur Mars?
C'est ça, ouais. Exactement. Oui, c'est un petit peu mon alter ego, Jeanne, le personnage principal de la BD. Parce que quand Boulet, qui est le co-éditeur de la nouvelle collection, m'a contacté, il m'a dit, mais imagine, toi qui as beaucoup réfléchi à cette mission, imagine voilà, ce que tu vivrais sur place si tu partais demain. Quoi.
Ouais, un vrai délice, non, pour vous?
Oh,
vous aviez déjà à peu près toutes les images en tête?
J'avais tout.
Tous les scénarios possibles?
Oui, mais j'ai choisi justement de ne pas faire de scénario catastrophe parce que ça m'intéressait pas. Puis le cinéma l'a fait beaucoup, la littérature aussi, donc j'ai voulu changer un petit peu, faire quelque chose un petit peu plus tranquille, mais d'un peu plus proche de la réalité, parce que ça reste une collection de vulgarisation, donc je voulais vraiment pas aller dans le sensationnalisme et rester au plus proche de ce qui pourrait vraiment arriver.
Alors Jeanne Clairvoix, hein, c'est le nom de cette héroïne, et c'est vous évidemment, parce qu'on vous retrouve sous les traits justement d'Erwan Surcouf. C'est un clin d'œil à Jean-François Clairvoix.
Oui, il y a plein de clins d'œil, effectivement j'ai changé l'orthographe quand même, il y a un cratère Claudie Aigneré, il y a une dune Tonini, la base s'appelle Elon Musk. Donc plein de clins d'œil.
Elon Musk qui vous rejoint d'ailleurs en cours de voyage.
Non, pas dans cette BD là.
Ouais, mais on voit quand même à un moment il est là présent.
Vous avez vu ça vous?
Bah écoutez, je vais le retrouver. Il me semble bien que c'est Elon Musk qui vous rejoint. Voilà, regardez par exemple.
Ah oui, effectivement, oui, dans les petits schémas entre les chapitres.
Et bienvenue à Elon Musk, vous êtes à la maison.
Mais c'est le nom de la base.
Voilà. Alors. Il y a d'autres femmes de l'espace, hein, auxquelles vous avez rendu hommage, Valentina Tereshkova,
oui,
hein, par exemple, parce qu'on la retrouve aussi dans cette histoire.
Oui, bah en fait, il y a plein de clins d'œil aux gens qui ont fait l'histoire du spatial et à la pop culture aussi, notamment Retour vers le futur. Il y a un robot qui s'appelle Obi-Wan. Donc, un vaisseau s'appelle Tereshkova, du nom de la première femme dans l'espace. L'autre s'appelle Robinson, de Kim Stanley Robinson, qui a écrit la trilogie Mars, la rouge, la verte, la bleue. Donc, j'ai mis plein de références pour faire des petits clins d'œil.
Ça, c'est vraiment le rêve de votre vie, Florence, d'aller un jour dans un ailleurs, parce que là c'est la planète Mars, mais ça pourrait être la Lune d'ailleurs, non?
Oui, mais je suis convaincue que sans doute je pourrais aller marcher sur la Lune.
Ça, c'est plus probable quand même.
Oui, franchement, plus ça avance et plus je me dis que je pourrais le faire. Mars, j'y crois pas beaucoup, mais la Lune, honnêtement, je pense que c'est pas improbable.
Ouais. Je vois la tête de Jean Pruvot qui vous regarde, un petit peu étonné, Jean, quand même.
Alors quand je serai un peu vieille, mais...
Vous pourrez vous nadir au Zénith.
Oui, on vous fera un petit coffre de dictionnaire si vous partez en fusée vers Mars.
Peut-être qu'il y en a là-bas aussi. Hein.
Vous savez, on en amènera.
Oui, avec la durée du voyage.
Mais on va faire ensemble un dictionnaire de la Lune, je pense.
Ah oui,
ça c'est Ouais. Non mais vous aurez le temps de lire parce que le voyage va être très long quand même.
Hein, pour Mars, c'est 6 mois. C'est 6 mois les voyages pour Mars avec la technologie actuelle. Ouais.
Comment vous avez travaillé pour la bande dessinée, Florence? C'est vraiment basé sur des scénarios scientifiques validés par les chercheurs?
Oui, alors je me suis entourée de beaucoup de scientifiques et de beaucoup de chercheurs, notamment Cyprien Verceux qui a relu les différentes versions du scénario en direct de sa base à Hawaï, étant en mission d'un an avec la NASA, donc sur Mars. Je me suis entourée de planétologues qui ont fait vraiment les expériences en laboratoire, l'expérience du son notamment, elle a été faite en laboratoire, les résultats sont dans la BD et ça va être bientôt publié.
C'est quoi l'expérience du son alors?
Alors en fait dans la BD, Jeanne va chanter une chanson, enfin l'hymne martien, et donc il est enregistré dans l'atmosphère martienne et puis dans le casque pour savoir un petit peu comment on entend différemment sur la Terre et sur Mars, et donc l'expérience a réellement été faite en laboratoire par un planétologue qui va sortir un vrai papier scientifique de l'idée que j'avais pour ma BD. Donc ça c'est vraiment cool d'avoir mêlé comme ça l'artistique et la science. Je me suis entourée également ben de voilà d'un médecin qui me dise si c'était bien crédible tout ce que je raconte au niveau psychologie, médecine, enfin ce genre de choses. Donc je me suis entourée de scientifiques qui ont tout validé.
Ouais. Comment ça se passe l'arrivée sur Mars alors quand on arrive les premiers dans un tel univers hostile où il manque beaucoup de couleurs d'ailleurs, hein. Vous dites que heureusement la réalité virtuelle permet de porter des lunettes pour voir des paysages qui ne ressemblent pas qu'à ceux de Mars, hein, qui sont un petit peu
Bah oui, parce que c'est assez monochrome Mars, c'est des tons d'ocre, et donc je pense que psychologiquement ça va être très fatigant pour les marsonautes de voir que ces couleurs là donc j'ai imaginé qu'ils pouvaient s'échapper un peu en réalité virtuelle pour voir des couleurs vives un petit peu partout pour être moins fatigués psychologiquement, et je pense que ça pourrait ça, enfin, de toute façon la psychologie sera absolument indispensable, c'est la grande inconnue, de toute façon c'est la seule chose qu'on peut pas simuler aujourd'hui quoi. On peut faire toutes les missions de simulation, la psychologie reste le grand point d'interrogation.
Jean-Paul demande avec la bande dessinée, est-ce que la fiction dépasse la réalité, Florence Porcel?
Excellente question, c'est les lecteurs qui me diront en lisant cette bande dessinée.
Il y a des choses très étonnantes, il y a la première relation sexuelle de l'histoire martienne aussi, hein, entre
Jeanne et San. En fait, comme c'est de la vulgarisation, je me suis dit comment vulgariser la différence de gravité entre la Terre et Mars, et je voulais pas faire un cours magistral sur la différence entre le poids et la masse, donc j'ai cherché quelque chose
de beaucoup plus simple.
Et puis la sexualité, c'est vraiment une question que tout le monde se pose, c'est des missions de longue durée sur des années, c'est des gens qui sont vraiment les uns sur les autres, sans mauvais jeu de mots, pendant des années, donc il va falloir gérer ça. Donc je me suis dit comment on gère un rapport sexuel alors qu'on pèse alors que notre poids est trois fois moindre que celui de la Terre, quoi.
C'est une vraie question scientifique, Florence Porcel, et le public approuve d'ailleurs.
J'ai fait l'expérience de pensée, Mathieu, je fais mon travail.
Et c'est la question qu'on n'ose jamais poser aux astronautes d'ailleurs. Vous avez remarqué dans les interviews, on reste très discret sur... Ces questions d'intimité, évidemment.
Moi, je peux me permettre en tant qu'artiste...
C'est ça, de proposer dans cette bande dessinée. Une fois encore, je vous pose cette question parce que vous avez ce désir de partir, vraiment.
Ouais.
Et vous allez le réaliser, vous pensez?
Je fais tout pour aller... un jour sur la Lune si c'est possible. J'essaye en ce moment d'aller passer un an sur la base Concordia en Antarctique.
Pour vous préparer aussi.
Pour me préparer, c'est vraiment à très très long terme, parce que je pense que ça ne sera pas avant mes 60, 65 ans la Lune. Mais je mets tout en œuvre aujourd'hui petit à petit pour être prête si un jour j'ai l'occasion d'aller sur la Lune au moins. Ouais.
Et elle le fera.
Et je le ferai.
Je suis sûr qu'un jour on en parlera si
la tête
au
carré en direct de la Lune.
Ah, mais ça j'aimerais bien. Jean Pruot.
Moi, ce que je trouve formidable chez vous, c'est que vous êtes au bon sens du terme azimuté. À moi,
merci.
L'azimut. Tous azimuts.
Quel compliment.
Voilà, Florence Porcel, azimuté, mais qu'on aime comme ça. Et c'est Mars Horizon avec les dessins d'Erwan Surcouf.
Le meilleur.
Et c'est aux éditions Delcourt. Et en signature donc demain.
Samedi et dimanche.
Merci beaucoup. Pierre Kerner, à nous, c'est le dernier ouvrage que nous présentons ici au Salon du Livre. Est-ce que vous aussi, vous avez une séance de signature, Pierre, qui est prévue?
Oui, dimanche de 14h à 16h sur le stand de Belin.
Voilà, qui est pas très loin d'ici d'ailleurs. Mm-hmm. On salue Suzanne Maki, d'ailleurs, qui vous accompagne et qui représente les éditions. Alors, La Science à contre-pied, le livre événement de la communauté des fans de science par 40 blogueurs, dessinateurs et youtubeurs, plus des vidéos exclusives.
C'est ça.
Racontez-nous comment est le Café des Sciences, d'ailleurs, au départ, qui est une belle communauté de fous de science.
Oui, donc le Café des Sciences est né en fait en 2006 à partir de blogueurs qui ont voulu partager sur une plateforme et s'agréger d'une certaine manière, mais aussi s'entraider pour pouvoir former une communauté de vulgarisateurs au début à l'écrit et puis au fur et à mesure en essayant d'autres médias, toujours sur le web. C'est ça, il y a deux choses qui relient tous ces vulgarisateurs, c'est enfin plutôt trois choses: la science, la francophonie et le fait que tout se retrouve sur le web. Et ensuite, ces vulgarisateurs ont exploré, par exemple, l'illustration et tout dernièrement la vulgarisation en vidéo avec les youtubeurs ou les vidéastes, comme ils aiment s'appeler. Ouais. Et y a eu un projet de livre ensuite qui est né de cette envie de partager sur d'autres médias et dont vous tenez l'exemplaire.
Ouais, absolument. Ça a complètement bouleversé la façon de transmettre aussi la science, hein, tous ces nouveaux médias là.
Oui, fondamentalement, d'une part par le contact avec le public qui change, puisque quand on écrit un livre, on a une sorte de barrage à la réactivité, alors que l'interactivité est présente sur le web, que ce soit sur un blog, on a les commentaires qui peuvent réagir sur les réseaux sociaux, mais aussi même sur l'illustration ou sur la vidéo, il y a toujours des plages de commentaires qui permettent de faire réagir les lecteurs et de savoir quel est leur avis sur ce qu'on fait.
Voilà, et Florence qui est d'ailleurs connectée à son Twitter pendant l'émission, elle regarde les messages qui tombent. bombe. Et Jean Pruvot qui est sur Facebook aussi, d'ailleurs, je vous vois
tout en temps. Oui, oui, avec un immense plaisir. Hein.
Vous déposez des mots?
Oui, je vais déposer des mots. Par exemple, puisque café, c'est un mot arabe, on va en parler. Mazout, benzène, on est toujours là dans les sciences.
Ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que le logo du Café des Sciences, au début, était représenté avec un arrobase.
C'est vrai. Voilà. Et maintenant, il y a une petite tasse de café. Alors, c'est incroyable de voir ce nombre, vraiment, en France, qui est représentatif. Vous travaillez beaucoup avec des Canadiens aussi. Les Québécois avaient lancé l'idée aussi au départ.
Exactement. C'est-à-dire que les Canadiens avaient préparé, eux, leur propre plateforme, à peu près au même moment que le Café des Sciences, qui s'appelle l'agence Science Presse, qui était plus des journalistes, mais qui agrégeait aussi des vulgarisateurs non spécialistes ou non, en tout cas des amateurs. Et eux avaient pour vocation de créer un livre qui reprenait les billets déjà existants. Il y a eu deux livres qui ont été publiés, donc des anthologies de blogs. Mais nous, c'était un autre projet, puisque cette fois-ci, on voulait faire du contenu véritablement inédit et collaboratif. C'est-à-dire que des vulgarisateurs, des illustrateurs, enfin, donc des blogueurs, des illustrateurs et des vidéastes se retrouvaient sur un même projet de communiquer un sujet et généralement insolite, c'est-à-dire qu'ils faisaient réfléchir donc de la science à contre-pied.
Ouais. Pierre Kerner, est-ce qu'il y a des codes de la bonne communication, de la bonne transmission scientifique aujourd'hui? Quand on lit la titraille, par exemple, là, c'est vraiment absolument indispensable de faire une bonne titraille sur un article.
Oui, mais en fait, il y a énormément de choses qui sont considérées, mais ce que j'aime bien entrevoir justement dans le Café des Sciences, c'est que ces choses-là sont explorées comme si c'était un écosystème, c'est-à-dire que la vulgarisation, il n'y a pas une bonne solution, mais on explore des pistes pour pouvoir communiquer de manière générale. D'ailleurs, il y a une diversité des tons dans l'ouvrage qui reflète cette manière de communiquer et cette efficacité qui peut être explorée dans d'autres directions.
Ouais. On peut donner quelques titres, hein, Pierre, pour illustrer justement le livre. Il y a « Les écureuils sont des tueurs d'enfants », alors voilà un article qui nous incite à dire de quoi il s'agit exactement.
C'est en fait une observation des mœurs un tout petit peu, qu'elles soient cannibales, qu'elles soient infanticides ou qu'elles soient même plus graveleuses dans
la nature,
dans le monde animal notamment.
Voilà.
Ouais.
Le métal, ça calme. Et oui.
Le métal, donc la musique, pas des coups d'acier. Le métal, la musique, ça calme et l'écoute de la musique aurait calmé. C'est une étude de plusieurs Australiens qui ont justement observer l'altération du comportement à l'écoute du métal.
Oui, donc on voit bien le contre-pied là, effectivement. Mm-hmm. Une pin-up Playboy inspire des chercheurs en informatique.
Tout à fait, et ça c'est une histoire assez fascinante, c'est-à-dire que l'image qui était utilisée pour pouvoir tester les algorithmes et les méthodes de compression, notamment sur les formats qu'on connaît tous, les formats JPEG d'image, était réalisée sur une image au début très très classique, et puis à force, la petite tête d'une pin-up de Playboy, d'une couverture de 1972, je crois.
Alors moi, il y a deux autres titre que j'aime beaucoup. Même les hippies sont violents, hein, il faut quand même le savoir. Et Jurassic Park André Citroën, alors ça c'est un peu nul, mais ça me fait beaucoup rire.
Oui, ça c'est l'ouvrage donc BD d'Alain Beneteau qui montre que dans le parc Citroën se cachent des dinosaures.
Ah bon, bah, il faut aller les chercher, c'est dans le 15e arrondissement pour ceux qui veulent aller s'aventurer. Alors la Bipédie, ça c'est l'article que vous avez signé justement, Pierre Kerner.
Que j'ai co-signé avec Martin Dutray et qui était illustré par Adrien Demilly et Mélanie Laborde.
Voilà, une histoire a évolué debout.
C'est ça. C'est qu'on se représente en fait souvent que la bipédie, c'est un peu le parangon de l'espèce humaine, en se disant voilà, on est les seuls bipèdes. Eh bien, détrompez-vous, il y a énormément d'espèces animales qui sont bipèdes et qui n'utilisent pas exactement la même bipédie que nous.
Ouais. C'est-à-dire, alors, par exemple, il y a une bipédie temporaire?
Alors, la bipédie temporaire, c'est celle qui est utilisée par certains animaux uniquement pour pouvoir réaliser quelques actions, que ce soit pour intimider un rival. De nombreux animaux, comme des ours, se mettent debout pour pouvoir foutre une claque à un rival pour avoir accès à une femelle. Il y a des combats de lièvres très célèbres où ils se mettent sur leurs pattes arrière. Il y a l'intimidation des prédateurs, qui est réalisée par exemple par les moufettes, mais cette fois-ci, c'est une bipédie originale puisqu'elle se fait sur les pattes avant.
La moufette, c'est un terrible animal québécois, d'ailleurs, il faut le préciser quand même.
Exactement.
Hein. Qui répand sur son passage une odeur pestilentielle. Hein.
Voilà, et donc pour pouvoir répandre son odeur, il faut que ça passe par les glandes anales, et pour mieux asperger, il faut faire une bipédie, mais sur les mains.
Et c'est affreux, effectivement. Jean Pruvot.
Ben oui, du côté des animaux, on est gâté parce que là, c'est plutôt la douceur. Alors, bipède, la gerboise, qui d'une certaine manière...
Exactement,
alors,
qui est bipède.
Voilà,
vous en parlez.
Bipède, alors on pourrait croire que c'est la gerbe, mais non, c'est un mot arabe. Et puis, il y a des mots compliqués, comme la girafe, dont Buffon disait que c'était un animal charmant mais qui n'avait aucune utilité, parce qu'évidemment avec ses deux grandes pattes il est obligé de les écarter pour boire. Donc entre la gazelle, l'albatros et parfois des mots curieux, le bardo, qui est un mélange de l'âne et qui est un mot arabe. arabe, donc Brigitte Bardot, ouais, sans doute, en est consciente, je pense.
Et ça lui va bien, finalement.
La madrague aussi.
Ah oui, c'est vrai.
La madrague est un filet qui attrapait les thons et qui est un mot arabe.
La pauvre, entourée d'arabes, ça va être terrifiant pour elle. La bipédie des dinosaures, là aussi pour terminer. Puis
oui, pour pouvoir justement rebondir. Donc, dans ce parc André Citroën, s'il y a des dinosaures, c'est tout simplement parce que le reste des dinosaures qui existent à l'heure actuelle, ce sont les oiseaux. Ouais. Et la bipédie est très 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 répandue chez les oiseaux. Vous avez déjà vu des pigeons marcher, eux ce sont des bipèdes parfaits.
Merci beaucoup. En tout cas, La Science à Contre-Pied, c'est aux éditions Belin. Signature pour vous également pendant le Salon du Livre. Et puis Mars Horizon chez Delcourt. Et encore Jean-Claude Lattès avec Nos Ancêtres les Arabes. Merci beaucoup à vous tous d'être venus nous voir cet après-midi. Vous avez rendez-vous à 17h, toujours sur le stand France Inter, avec toute l'équipe de Charline, d'Alex, toute la bande de Si Tu Écoutes, J'annule Tout. Ce sera tout à l'heure, donc dans moins de 2 heures.